La chanson de Roland, livre sixième, l'expiation. 1. La Bélaude. L'empereur Charles est rentré de l'Espagne. Il vient à Aix, le meilleur lieu de France, monte au palais et entre dans la salle. Alors vers lui s'avance Haut de la Belle. « Où est Roland, Roland le capitaine, qui m'a juré de me prendre pour femme ?» Charles en est plein de douleur et d'angoisse, pleure des yeux, tire sa barbe blanche. « Sœur, cher ami, tu demandes de nouvelles d'un homme mort, dit-il. Mais va, Bélaude. Je saurai bien te remplacer, Roland. À toi, Louis, je ne te puis mieux dire. Louis, mon fils, qui tiendra mes états. » Aude répond. Ce propos m'est étrange. Ne plaise à Dieu, à ses saints, à ses anges, que, Roland mort, je reste encore vivante. Elle pâlit et tombe aux pieds de Charles. La voilà morte. Adieu a eu son âme. Les barons francs en pleurent et la plaignent. Aude la Belle est allée à sa fin, mais Charles croit qu'elle n'est que pâmée. Pris de pitié, il répand force larmes, lui prend les mains et la remet debout. Sa tête, hélas, retombe sur l'épaule. Aude est bien morte. Et Charles, qui le voit, autour du corps mande 4 comtesses. Elle est portée en un moutier de nonne. Toute la nuit jusqu'au jour, on la veille. Puis, sous l'autel, bellement on l'enterre. Moult grand honneur lui fut rendu par Charles. 2. Ganelon et ses juges. L'empereur Charles est revenu à Aix. Le traître Gane a été mis au fer dans la cité, en face du palais. Là, des valets le clouent à un poteau. Les mains liées par des courroies de serre, il est battu à grands coups de bâton et flagellé avec les nerfs de bœuf. De ses forfaits, c'est le digne salaire. Dans les douleurs, il attend son procès. Comme il est dit dans l'ancienne chronique, Charles manda les hommes de ses terres, qui, rassemblés dans la chapelle d'Aix, en un grand jour, jour de très belle fête, c'était, dit-on, le jour de Saint-Sylvestre, du vil félon commencèrent le plaid. Or donc, oyez ce qu'il advint de Gane, mis en justice et traîné devant Charles. Seigneur baron, dit le roi Charlemagne, jugez-moi Gane et donnez force au droit. M'ayant suivi dans ma guerre d'Espagne, il m'a ravi 20 000 de mes francs et mon neveu que vous ne verrez plus, et Olivier, le preux et le courtois. Il a trahi enfin les 12 pères. Et tout cela pourquoi ? Pour de l'argent. Gane répond, fier et la tête haute, « Sois-je maudit si je nie ce qui est. Ce que j'ai fait, je n'en fais pas mystère. Roland m'avait fait tort en mon avoir et condamné à douleur et trépas. Lui voulant mal, j'ai pu vouloir sa mort. Mais que ce soit trahison, je le nie. » Et tous de dire, on en tiendra conseil. Devant le roi, Ganelon se tient droit, le corps gaillard, la face colorée. Qu'il fût loyal, on dirait un baron. Il envisage et les francs et ses juges et ses parents qui sont 30 avec lui. Puis il s'écrie de sa voix la plus forte. Au nom de Dieu, baron, entendez-moi. Longtemps je fus dans l'armée près du roi le servant bien, avec foi et amour. Mais quand Roland se mit à me haïr, qu'il me choisit pour souffrir et mourir, comme envoyé auprès du roi Marsile, pour me sauver, j'eus recours à l'adresse. J'avais d'ailleurs déclaré défier le preux Roland, Olivier, tous les pères, le roi Louis et ses barons louirent. Vengeance soit, mais trahison non pas. Et tous de dire, on ira en conseil. 3. Grâce pour Ganelon. Gane, aussitôt son procès commencé, a rassemblé 30 de ses parents. Il en est un que les autres écoutent, c'est Pinabel du château de Sorens. Il parle bien et par droite raison. Puis, bon guerrier, fait respecter ses armes. Gane lui dit, « Je me confie à vous. Arrachez-moi à la mort, à la honte. » Lors, Pinabel, « Oui, vous resterez sauf. Je suis votre homme, et s'il est un Français qui contre vous demande la potence, que l'empereur nous mette ensemble au champ. L'épée au poing, je le démentirai. » Le comte Gane, à ses pieds, lui rend grâce. Au conseil sont Saxons et Bavarois, nombreux Teutons et nombreux Allemands, Français, Normands, Poitevins, Bourguignons. Les Auvergnats sont les mieux disposés, et Pinabel les trouve favorables. L'un dit à l'autre, « Il faut en rester là, trêve au procès. Faisons prière au roi que cette fois il fasse grâce à Gane, prêt à servir avec foi et amour. Roland est mort, on ne le verra plus. Argent ni or ne saurait nous le rendre. » Fou qui voudrait l'épreuve du combat. Et tous de dire, « Eh bien, nous l'accordons. » Tous, hors Thierry, frère du duc Geoffroy. Vers l'empereur s'en viennent ses barons. « Roi, disent-ils, nous venons vous prier de décider que Ganelon soit quitte et puisse ainsi, avec foi et amour, comme jadis servir son empereur. Laissez-le vivre, il est homme si noble. Roland est mort, on ne le verra plus. Tous les trésors ne sauraient nous le rendre. » Le roi leur dit, « Vous êtes tous félons. » 4. Thierry, le tenant de Charlemagne, et Pinabel, le tenant de Ganelon. Le roi, voyant que tous lui font défaut, baisse la tête, et sombre est son visage. « Ah ! S'écrie-t-il, je suis bien malheureux. » Mais devant lui s'en vient un chevalier, Thierry d'Anjou, frère du duc Geoffroy. Il a le corps maigre, frêle, allongé, les cheveux noirs et le visage brun. Sa taille n'est ni grande ni petite. Courtoisement, il dit à l'empereur, « Beau sire roi, ne vous tourmentez pas. Vous le savez, je vous ai bien servi. Je siège ici du droit de mes ancêtres. Eh bien, je dis, quelle que soit la faute dont Ganelon à Roland fait reproche, votre intérêt devait sauver Roland. N'était-il pas homme à votre service? Qu'il a perdu, a fait œuvre de traître. Gane est un traître, et de plus un parjure. Cela étant, je le condamne à mort. De félonie atteint et convaincu, qu'il soit pendu et que les chiens le mangent. S'il est quelqu'un des siens qui me démente, la bonne épée qui pend à ma ceinture va soutenir l'arrêt que je prononce. C'est bien parlé, Thierry, disent les Francs. Lors, Pinabel devant le roi s'avance. Grand, fort, agile, on voit que c'est un brave, sachant tuer son homme au premier coup. Il dit au roi, « Sire, le plaid est vôtre, préservez-le des noises et du bruit. Voici Thierry qui a dit son arrêt. Je dis qu'il ment, et prétend le combattre. En même temps, au point droit de Thierry, Pinabel met le gant en peau de cerf. « Bien, dit le roi, mais je veux bons otages. » 30 parents s'offrent pour caution. L'empereur dit « J'accepte » et il prescrit qu'il soit gardé tant que voudra justice. Quand Thierry voit que le combat est proche, il offre au roi le gant de sa main droite. Le roi répond de Thierry par otage et fait porter 4 bancs sur la place. Là vont s'asseoir ceux qui doivent combattre. Chacun approuve et tout se passe en règle sous les regards d'Augier, juge du camp. Les champions, Pinabel et Thierry, ont demandé leurs chevaux et leurs armes. 5. Le duel des deux champions. Bien confessé et absous et béni, la messe oui, la communion faite, de riches dons offerts au monastère, les champions sont prêts à s'aligner, et devant Charles ils se rendent tous deux. Ils ont chaussé aux pieds leurs éperons, vêtu leur corps de haubert d'acier blanc, forts et légers, attachés sur leur tête leurs haumes claires cerclées de pierreries, ceint leurs épées à la garde d'or pur, pendu au cou leurs écus à quartier, pris au point droit leurs lances aiguisées et enfourché leurs destriers rapides. On vit alors 100 000 chevaliers s'apitoyer sur Thierry pour Roland, et l'œil en pleurs souhaiter son triomphe. Dieu seul connaît comment tout finira. Sous Aix s'étend une vaste prairie. C'est là que va s'engager le combat. Les deux barons sont des preux intrépides, et leurs chevaux sont fringants et agiles. Piquant des deux, ils leur lâchent les rênes, et avec force ils foncent l'un sur l'autre. Leurs deux écus sont fracassés, brisés. Leurs deux haubères sont démaillés, rompus. Les deux chevaux ont les sangles cassées. La selle tourne et les cavaliers tombent. 100 000 francs voient ce spectacle et pleurent. Les deux barons sont donc jetés par terre. Lestes et prompts sur leurs pieds, ils se dressent. Que Pinabel est fort, léger, agile. L'un cherche l'autre, ils n'ont plus de chevaux, mais leurs épées à la garde d'or pur, avec grands coups sur les haumes d'acier, frappent sans trêve, afin de les trancher. Quel rude choc! Ah, les chevaliers francs sont en grand trouble, et l'empereur s'écrie. Faites, mon Dieu, éclater le bon droit. Quitte le champ, Thierry, dit Pinabel, et tu auras mon amour et ma foi, et tu seras comblé de mes trésors. Réconcilie Ganelon et le roi. » Thierry répond, « Loin de moi telle idée. Ainsi faisant, je serais un félon. Que Dieu prononce aujourd'hui entre nous. » Thierry reprend, « Tu es un vrai baron, très fort, très grand, et le corps fait au moule. Et tous tes pères te réputent vaillant. Eh bien, renonce à ce fâcheux combat. Avec le roi, je te mettrai d'accord. Pour Ganelon, on en fera justice, et jamais plus il n'en sera parlé. Lors, Pinabel, moi, céder, Dieu m'en garde. Je soutiendrai toute ma parenté, sans reculer devant hommes qui vivent. Plutôt mourir que mériter tel blâme. » Et leurs épées à nouveau s'entrechoquent, frappant si fort les casques gemmés d'or que le feu clair en jaillit vers le ciel. Les séparer n'est plus chose possible, leur corps à corps doit finir par mort d'homme. Il frappe en preux Pinabel de Sorance, sous ses grands coups l'armure de Thierry lance des feux, dont la vive étincelle fait s'enflammer l'herbe sèche des prés. Voici l'épée pointée sur son visage. Elle a fendu son aume de Provence. Elle descend jusqu'au-dessous du front. Pauvre Thierry, il a sa joue en sang et son aubert déchiré jusqu'au ventre. La mort est là, mais Dieu va l'écarter. Thierry se sent blessé à la joue droite et son sang clair rougit le pré herbu. Il frappe alors Pinabel sur son aume. L'acier se fend du cimier au nasal, le crâne éclate et la cervelle en sort. Thierry brandit son glaive ensanglanté et abat mort le champion de Gannes. Ce coup de nez, Thierry est bien vainqueur. Les Français crient. Le doigt de Dieu est là. Il est de droit qu'on pende Ganelon et les parents qui répondent pour lui. Dès que Thierry du combat sort vainqueur, auprès de lui s'en vient l'empereur Charles, accompagné de 40 barons, dont le duc Nesmes, Ogier de Danemark, Geoffroy d'Anjou et Guillaume de Blaye. Le roi, prenant Thierry entre ses bras, l'essuie avec ses grandes peaux de martre. Puis il les quitte et il en revêt d'autres. Tout doucement, on désarme Thierry et on le met sur une mule arabe. Le baron part, escorté et joyeux. On entre à Aix, on descend sur la place. Il va falloir procéder au supplice. 6. Le supplice de Ganelon et de ses 30 parents. Charles a mandé ses comtes et ses ducs. Copinez-vous sur ceux que j'ai gardés. Pour Ganelon, ils sont venus au plaid. Pour Pinabel, ils se sont fait otages. Qu'ils meurent tous, répondent les Français. Le roi commande ainsi un viguier, Babrin, exécuteur de sa haute justice. Va, qu'ils soient tous au bois maudit pendu. Par cette barbe, aux poils blancs et chenus, si un s'échappe, on te pend, tu es mort. Ne craignez point, qu'ai-je autre chose à faire, dit le viguier. Aidé de 100 valets, Babrin les prend et les mène de force. Bientôt après, les 30 sont pendus. Le traître ainsi se perd et perd autrui. L'accord est fait. Les juges bavarois, les poitevins, les bretons, les normands, les allemands et surtout les français, tous sont d'avis qu'il faut que Gannes meure dans des tourments sortant de l'ordinaire. On fait venir 4 forts destriers, auquel on lie Ganelon, pieds et mains. Ses étalons, emportés et agiles, sont fouettés par 4 valets d'armes et sont lancés devers une cavale qu'on a placée au beau milieu d'un champ. Ganelon souffre un terrible tourment. Membres et nerfs sont tirés sans mesure. De tout son corps, la charpente est rompue et son sang clair inonde l'herbe verte. Le voilà mort en félon avéré. C'est le bon droit qu'un traite et court triomphe. 7. Le baptême de Bramimonde. Pas de repos pour Charlemagne. Quand Charlemagne eut ainsi fait vengeance, il convoqua les évêques de France, ceux de Bavière et ceux de l'Allemagne. « J'ai au logis une noble captive, dit l'empereur. Elle a vu tant d'exemples, elle a ouï tant de très beaux sermons, qu'elle a la foi et veut être chrétienne. Baptisez-la pour qu'à Dieu soit son âme. »« Soit, dirent-il, il lui faut des marraines qui toutes soient hautes et nobles dames. Aubin à Aix est grande compagnie. On baptisa la reine Sarrazine en lui donnant le nom de Juliane. Elle est chrétienne et c'est à bon escient. Quand l'empereur eut ainsi fait justice et apaisé son grand ressentiment, quand il eut fait Bramimonde chrétienne, le jour fini, la nuit sombre venue, il se coucha dans sa chambre voûtée. Mais Gabriel de Pardieu vint lui dire : roi, réunis les armées de l'Empire, et en Syrie, cours à marche forcée, porter secours au roi Vivien dans Inf. Car les païens assiègent cette ville, et les chrétiens à grands cris t'y réclament. Mieux aimerait Charles n'y pas aller. Et, l'œil en pleurs, tirant sa barbe blanche, « Dieu, s'écrie-t-il, que ma vie est peineuse. » Ici finit la geste de Thourould.